Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdioua pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 à Lucandioua. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Karine Melzer. Bonjour.
Bonjour.
Karine Melzer, présidente de Biovallée. Et à vos côtés, il y a donc Hugues Sibyl. Bonjour.
Bonjour.
Et vous, vous êtes actuellement président du laboratoire de l'économie sociale et solidaire. Bonjour.
Bonjour.
Tous deux, vous êtes ici pour nous parler aussi de ce rendez-vous qui est donné dans le cadre de Écologie au quotidien sur la quinzaine de l'écologie. Et d'ailleurs, vous serez présent sur le plateau de la salle polyvalente à 17h ce jour. Donc pour les auditeurs, ça sera peut-être un peu tard. Hein, l'émission passera dans 2 jours. Et vous proposez justement une réflexion sur la sobriété en entreprise et entreprise, un projet qui a du sens. Point d'interrogation. Alors,
oui.
Vous-même êtes sollicité par cette organisation. Quelle est votre optique, justement, sur l'économie solidaire? D'ailleurs, vous en êtes quand même un des créateurs en France de ce système.
Oui, ça fait longtemps que je suis engagé sur ce type d'économie. Quand je l'ai fait, il y a un certain nombre d'années, les questions étaient surtout des questions économiques et sociales. Ça s'appelle l'économie sociale et solidaire. Et puis, de plus en plus, on est amené à se préoccuper des questions écologiques. Ce qui explique que ce soir, on a ce débat à 10 sur le thème l'entreprise et la sobriété. Donc, ça fait un moment, en particulier depuis la guerre en Ukraine, depuis la montée des questions climatiques, on se rend compte que peut-être que la manière de consommer et de produire pose des problèmes et qu'on peut pas aller au bout. Hein. On a craint, et peut-être que c'est pas encore complètement terminé, que c'était hiver, on ait des coupures électriques. C'est une forme de sobriété qu'on appelle une sobriété subie. C'est-à-dire, c'est pas nous qui choisissons ça, mais on risque d'avoir ça. Et ce soir, la question, c'est finalement de savoir, au-delà des particuliers, c'est-à-dire vous, moi, Karine, les entreprises, est-ce que ce sujet de la sobriété, comment est-ce qu'elles l'abordent, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour essayer d'être plus sobres? Et à l'intérieur de ça, est-ce que les entreprises dites de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire par exemple les coopératives, les associations, les mutuelles, les entreprises sociales, est-ce qu'elles ont une approche particulière de la sobriété? Et notamment, on pourra en reparler, parce que c'est des entreprises qui ne cherchent pas d'abord le profit, mais qui cherchent d'abord à avoir une utilité sociale, à créer de la solidarité, à apporter des services qui servent aux gens. Donc, ce dont on va parler, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les entreprises soient plus sobres, quels problèmes ça pose à la croissance. Par exemple, il y a des gens qui disent qu'ils veulent arrêter la croissance, qu'ils veulent une décroissance. Est-ce que c'est ça la sobriété? Est-ce que c'est autre chose? C'est les questions dont on va parler ce soir.
Karine Melzer, présidente donc de Biovallée. Ça aussi, c'était un des aspects sur lequel vous vous penchez à Biovallée, c'est l'esprit solidaire et de sobriété aussi.
Oui, puis l'enjeu de l'association Biovallée, c'est bien de faire avancer l'ensemble des acteurs d'un territoire vers une transition écologique et sociale, donc probablement, même certainement, vers de la sobriété, et que il faut pas mettre de côté les acteurs économiques, les entreprises, parce que elles ont un impact sur un territoire qui sont importants en termes de consommation d'énergie, de matière, de mobilité des produits, mais elles ont aussi un rôle vis-à-vis de leurs salariés, de leurs fournisseurs, de leurs clients, et donc c'est travailler aussi avec les entreprises, comme on travaille avec les associations, avec les habitants ou avec les collectivités locales, de les accompagner à aller vers davantage de sobriété et de voir à quels endroits elles peuvent agir en interne et aussi avec leur position d'entreprise, et comment elles peuvent aussi accompagner finalement une évolution des politiques publiques, une évolution des comportements et des pratiques de leurs salariés, de leurs fournisseurs, etc.
On peut parler aussi d'Elsa Lourdeau qui sera présente à cette conférence, qui elle donc est avocate et militante pour le développement des entreprises à mission. Entre guillemets, qu'est-ce que c'est une entreprise à mission ?
Oui, Elsa Lourdeau, elle est effectivement avocate et elle vient du monde très classique, elle m'a dit du monde libéral marchand, et en fait elle est toutes ces valeurs de justice, de servir les intérêts de tout un chacun, ont été un peu mis à mal par ses premières années d'activité professionnelle, et elle s'est vraiment interrogée sur comment ses compétences, son expertise juridique peuvent être mises au service de choses qui sont plus porteurs que des entreprises et qui sont centrées quasi exclusivement sur leur lucrativité. C'est ses propos. Et du coup, elle s'est engagée à la fois en créant un fonds de dotation qui agit sur la périphérie urbaine de la métropole lyonnaise et en montant un cabinet d'avocats qui va accompagner un certain nombre d'entreprises qui veulent justement ne pas mettre la lucrativité comme objectif seul unique, mais pouvoir intégrer d'autres missions de l'entreprise et des missions qui vont servir des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux. Et l'entreprise à mission, c'est une disposition qui a été intégrée dans la loi en 2019, si ma mémoire est bonne, voilà, et qui permet à des entreprises de mettre dans leur objet social une mission d'intérêt général. Et que ça soit un objectif en tant que tel de l'entreprise, et ce qui amène, bien sûr, quand on met ça dans ses statuts d'entreprise, ça amène à réfléchir à tout ce qu'il faut faire évoluer dans l'entreprise, sur notamment la participation des salariés aux décisions, sur la répartition des richesses, sur le rapport à son territoire, etc. Et donc elle vient nous apporter un regard plus juridique sur ces différentes possibilité pour les entreprises de s'engager volontairement dans des démarches d'intérêt général. Il y a eu historiquement l'économie sociale et solidaire. Uxibil a aussi participé à faire monter en puissance la question de l'entrepreneuriat social et justement comment on ne cantonne pas l'intérêt général dans les entreprises associatives, coopératives, mais comment on l'ouvre à davantage d'entreprises qui se mettent des critères elles-mêmes pour être des entreprises sociales et pas uniquement des entreprises lucratives qui servent quelques intérêts individuels. Et l'entreprise à mission est une nouvelle forme qui s'inscrit plus récemment dans la loi.
Vous êtes présent donc à cette présentation justement sur un sujet d'actualité controversé d'après le programme à clarifier en partenariat avec l'Association des lecteurs d'alternatives économiques et le laboratoire de la transition qui a confié une enquête à l'IUT de Valence auprès des consommateurs et des chefs d'entreprise. C'est un texte, pour moi, je ne discerne pas vraiment le sens, mais est-ce que vous pouvez clarifier justement ce propos ?
Ce qui a été fait auprès de l'IUT, je ne le connais pas encore, donc je ne peux pas vous parler de ça.
On va le découvrir ce soir,
donc on va essayer de réagir quand on va nous le présenter. Déjà, ce qui est intéressant, c'est de travailler avec des étudiants sur ce sujet-là. La question de la transition écologique, ce sujet de la sobriété, je pense que selon les générations, on voit les choses, on a une approche de ces sujets qui est différente. Moi, je suis quelqu'un qui a participé à ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, c'est-à-dire des années de croissance forte, etc. Et je pense que la jeunesse d'aujourd'hui a d'autres références, d'autres inquiétudes aussi sur la question écologique très forte. Tout le monde sait que Greta Thunberg, la jeune Suédoise, quelqu'un qui très jeune s'est fait entendre sur ce sujet-là. Donc on va voir un peu ce que les étudiants ont à nous dire ce soir. Le point, c'est aujourd'hui, si vous voulez, ce mot « transition », bon, c'est un peu abstrait finalement, la transition c'est quoi, mais c'est quand même l'idée qu'on est dans un certain modèle économique et qu'il faut transiter, c'est-à-dire aller vers un autre modèle qui soit à la fois économique, social et écologique. Et que il faut inventer d'autres façons de faire, c'est-à-dire d'autres façons de produire, d'autres façons de consommer, et que dans cette façon de le faire, le thème de la sobriété, c'est faire mieux avec moins d'une certaine manière, vous voyez, c'est-à-dire faire des choses peut-être qui sont meilleures, qui sont plus utiles, et en consommant moins d'énergie, moins de matières premières, en produisant moins de déchets, en polluant moins la planète, en préservant mieux la biodiversité. Donc, ils sont des sujets sur lesquels les jeunes sont très, très mobilisés. Les étudiants sont très mobilisés. On le voit. Hein. Il y a eu d'ailleurs des choses assez symboliques, très fortes, des étudiants des grandes écoles françaises, c'est-à-dire l'élite de notre pays, qui ont pris des positions, je pense aux gens qui sont à l'école d'agro, très fortes sur le fait qu'ils ne veulent plus la même agriculture qu'avant, qu'ils ne veulent plus travailler dans ces grands groupes agroalimentaires dont ils ont l'impression qu'ils ont une dimension négative dans ce qu'ils font. Donc, il s'agit de réfléchir ensemble et de se dire que finalement, il faut inventer des choses. C'est pas si facile que ça. Je pense que personne, si vous voulez, n'a la baguette magique pour dire « Oh, ben, c'est très facile, je sais ce qu'il faut faire. Ok, il y a la crise énergétique, il y a la crise climatique, on va aller là. » Donc, ce qu'on fait, et là, BioVallée est très intéressant, et ça m'a intéressé aussi de venir voir BioVallée, c'est qu'on se rend compte qu'il faut que les gens travaillent ensemble, finalement, pour faire de la transition. Il faut que les entreprises, les associations, les collectivités locales, les consommateurs travaillent ensemble pour progresser tous ensemble dans le fait de trouver des solutions qui évitent un certain nombre d'effets négatifs de ce qu'on connaît aujourd'hui, sans pour autant, de mon point de vue, revenir, disons, trop en arrière et de vivre uniquement en s'éclairant la bougie et en se chauffant au feu de bois, quoi, hein. Donc il faut inventer des choses qui permettent de vivre bien, peut-être avec moins de choses, parce qu'on a un excès finalement de consommation. On voit dans les déchets, dans ce qu'on jette tous les jours dans nos poubelles. Donc, il faut qu'on change nos comportements là-dessus. Et c'est cette idée de sobriété, et qu'il soit une sobriété voulue, discutée, choisie, que les gens comprennent, et qu'il ne soit pas un truc décrété depuis Paris dans lequel on vous impose de dire à partir de maintenant, crac, vous allez être sobre sur tel ou tel aspect de votre vie.
Karine, vous voulez intervenir ?
Oui, c'est rebondir sur... effectivement, Hugues faisait référence aux étudiants des grandes écoles qui commencent à s'opposer finalement au modèle qu'on leur transmet dans ces écoles, parce qu'ils ne veulent pas continuer à faire vivre les mêmes systèmes qui ont été, on le voit bien, faits au détriment à la fois de l'environnement, mais aussi du progrès social, puisqu'on voit petit à petit que les inégalités se recreusent, qu'il y a un certain nombre de plus en plus de gens qui se retrouvent dans une grande précarité, et toute la pression qu'il y a aujourd'hui sur le coût de l'énergie, le coût d'un certain nombre de matières premières, c'est ces personnes-là les plus en difficulté qui en subissent le plus les conséquences. Et donc à la fois on a ces étudiants qui passent ce message-là, en même temps on voit bien que les orientations nationales, elles ont du mal à prendre au rebond finalement toute cette attente de la jeunesse et d'aller dans ce sens-là. Là encore, je lisais un article dans le dernier Alternative économique qui montrait que dans toutes les filières en économie, il n'y avait plus qu'une seule pensée unique, et que les économistes hétérodoxes qui prennent en compte beaucoup plus l'aspect social, l'aspect systémique et institutionnel de l'économie n'ont presque plus de place de professeurs dans les universités. Et là où aujourd'hui, il faudrait complètement réfléchir autrement notre système économique et comment tout ça s'organise, on voit bien que là, l'État ne prend pas la dimension de tout ça et n'apporte pas les orientations vers une économie plus sociale, plus écologique, plus solidaire, ce dont on va avoir besoin, parce que plus les conditions de vie sont dures, et plus on a besoin de solidarité, d'égalité, etc. Et donc ça pose vraiment question, et c'est pour ça qu'on ne peut qu'encourager les jeunes à continuer à porter cette voix-là pour faire évoluer les orientations politiques, notamment nationales, mais aussi c'est pour ça qu'on est un certain nombre à choisir d'agir localement sur les territoires pour faire évoluer les territoires en se disant que s'il y a suffisamment de territoires qui évoluent dans le bon sens, ça fera aussi bouger des lignes au niveau national, européen, voire international, notamment si on arrive à se mettre un peu en réseau.
Hugues, Sibylle, la création d'emplois via le développement local, pour vous, c'est quand même le fil de votre activité.
Ça a été longtemps le fil de mon activité, oui, puisque j'ai dit, moi, je suis quelqu'un des 30 glorieuses. Donc, lorsque ce qu'on appelait la première crise pétrolière est arrivée, en fait, il y a des secteurs d'activité qui ont été très touchés, la sidérurgie, le charbon, etc. Et donc, pendant longtemps, j'ai été vraiment sur ce fil rouge-là. Je le suis toujours, mais avec une différence maintenant par rapport à il y a 10, 15 ou 20 ans, c'est cette question écologique. C'est-à-dire que créer des emplois, oui, mais si on crée des emplois qui contribuent, eux, à détruire la planète, on crée d'un côté des choses, mais on en détruit de l'autre. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de maintenir en fait une société qui crée de l'emploi, qui crée de l'inclusion, comme disent les gens qui travaillent dans ce champ-là, mais qui en même temps ait une responsabilité écologique. Je prends un exemple concret. Il y a une expérimentation très intéressante qui s'appelle « Territoire zéro chômeur de longue durée ». Il y a 50 territoires qui sont en train d'être choisis, dans lesquels l'objectif, c'est de la taille de Die ou de Cray, un peu entre les deux, 5 000 habitants, dans lesquels on essaye, sur quelques années, d'avoir zéro chômeur de longue durée. Eh bien, donc ça veut dire que dans chaque territoire, on va créer une entreprise à but d'emploi, on va travailler sur l'insertion de ces gens-là. Eh bien, ces entreprises à but d'emploi, très souvent aujourd'hui, elles ont des activités qui sont des activités, disons, à utilité sociale et écologique. C'est-à-dire, par exemple, tout ce qu'on appelle l'économie circulaire, le retraitement des déchets, des choses qui concernent des éléments, disons, d'activité dans le domaine de la nature. Donc, en fait, c'est bien ça qu'il faut essayer de faire aujourd'hui. C'est parce que si on dit aller vers l'écologie, ça veut dire supprimer des centaines de milliers d'emplois, personne ne va vouloir. C'est pas possible. On peut pas demander aux gens de dire, avoir plus d'écologie, ça veut dire avoir plus de pauvreté et moins d'emplois, c'est pas possible. Donc il faut qu'on transforme les modèles pour répartir autrement les emplois, pour redonner du sens au travail, parce que aussi ça c'est très important. Les jeunes qu'on va voir ce soir qui sont dans les UT, de plus en plus ils ont envie que leur boulot serve à quelque chose, ouais, c'est-à-dire travailler dans une boîte qui produit des trucs où on se dit, non seulement ça sert pas grand-chose, mais en plus, j'ai le sentiment de polluer la planète. Le matin, quand j'y vais, j'ai pas envie. Donc les jeunes, ils ont envie. Et donc, il y a toute une force potentielle qu'il faut arriver à transformer pour créer des activités qui permettent d'avoir un revenu, d'avoir donc un certain niveau de vie, mais pas non plus excessif par rapport à ce qui est souhaitable. Et de ce point de vue-là, nous, dans l'économie sociale et solidaire, on se dit que quand on parle de sobriété, il faut aussi se dire qu'il y a des revenus, des rémunérations qui sont trop importantes. Il y a des inégalités sociales qui sont trop fortes. Et on ne peut pas prêcher la sobriété si, en même temps, on ne se dit pas que il y a des revenus dans les grandes entreprises qui sont pas acceptables par le reste de la société. On peut pas demander à des gens d'être plus sobres et puis en même temps de montrer des gens qui sont toute la journée dans des jets privés, dans des trucs où ils dépensent énormément d'argent. Donc il y a aussi derrière tout ça une question de lutter contre les inégalités sociales et de créer un peu plus d'équilibre dans la société entre les différents agents économiques pour éviter ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Donc tout ça, c'est un chantier qui est assez compliqué, assez lourd et dans lequel la dimension locale est très importante et d'où l'intérêt d'organisations comme BioValley, du débat qu'on va avoir ce soir. Mais en ne s'arrêtant pas là, parce que c'est pas simplement des BioValley un peu partout en France qui vont à eux seuls régler le problème. À certains moments, on a aussi besoin de mesures fiscales, de mesures de politique économique qui transforment suffisamment le système pour aller dans une autre direction.
Karine,
oui, oui, je voulais juste illustrer sur les territoires zéro chômeur longue durée, parce que sur notre territoire, dans le Val de Drôme, ils sont effectivement inscrit dans cette dynamique-là avec une entreprise à but d'emploi qui va être en lien avec, pour les auditeurs de Air Diwa, le chantier Air Trésor qui a monté un chantier d'insertion pour les jeunes qui récupère et qui déchiquette les plastiques avec le projet Paillettes. Et il y a tout un travail qui va être fait en lien avec cette entreprise à but d'emploi, qui va aussi récolter les plastiques des entreprises, etc., du bas de vallée, pour pouvoir le remettre dans un circuit et qui sont après, les paillettes sont redonnées à la Fab Unit sur le milieu de la vallée et qui ont refait des planches pour pouvoir faire du mobilier en plastique recyclé. Donc c'est aussi tout un écosystème autour de ça et c'est ce qui est intéressant dans une approche aussi de réflexion du travail sur un territoire, c'est de voir comment effectivement on donne la possibilité à des personnes éloignées de l'emploi de pouvoir revenir vers l'emploi, avoir un revenu et comment tout ça s'inscrit dans quelque chose de vertueux pour le territoire parce que ça va venir quelque part alimenter d'autres actions, d'autres entreprises, Air Trésor pour le chantier d'insertion, la Fab Unit qui est en société coopérative sur le territoire et donc on voit bien qu'on a besoin de créer aussi ces passerelles entre différents mondes et davantage de coopération sur les territoires pour que chacun trouve un niveau d'activité suffisant pour pouvoir perdurer.
Hugues Sibylle, ensuite 98, un tournant quelque part. Vous êtes nommé par Lionel Jospin comme délégué interministériel à l'innovation et à l'économie solidaire. Pour vous, c'est déjà justement de préparer l'avenir avec une nouvelle optique d'une société de sobriété.
Je ne pensais pas que vous alliez me parler de ça, mais vous me parlez d'un moment merveilleux de ma vie, donc je suis très content. Effectivement, le Premier ministre m'avait demandé d'être délégué interministériel, et donc j'ai préparé une loi, ce qui, comme Karine le disait tout à l'heure, il doit y avoir aussi transformer la société. Ce n'est pas simplement chacun dans son village, dans son travail qui doit le changer, mais il y a aussi des mesures un peu structurantes à prendre. Donc j'ai pris cet exemple, c'est qu'un exemple. On a préparé une loi sur les coopératives d'intérêt collectif qui a inventé une nouvelle forme d'entreprise coopérative dans lequel il y a au conseil d'administration, dans les instances, dans ce qu'on appelle la gouvernance, à la fois les salariés, des associations si elles le souhaitent, les consommateurs, la collectivité locale et qui permet autour du thème de l'intérêt collectif que l'entreprise, c'est-à-dire c'est une entreprise, donc il faut qu'elle équilibre ses comptes, il faut qu'elle gère ses ressources humaines comme il faut qu'elle respecte toute une réglementation, mais elle se fixe un objectif qui est l'intérêt collectif ou l'intérêt général. Et donc, aujourd'hui, on voit dans beaucoup de domaines, y compris dans des domaines écologiques, dans le développement local, que ce type d'entreprise, les SIC, est de plus en plus utilisé. Et donc, ça veut dire qu'on a besoin aussi de faire évoluer le droit, par exemple. On en parlera sans doute ce soir avec notre avocate. Faire évoluer le droit. Or ça, on ne peut pas le faire au niveau de Biovallée. On ne peut le faire que dans le cadre de l'Assemblée nationale, du gouvernement, etc. Donc moi, j'ai eu la chance pendant 3 ans de pouvoir piloter cette politique nationale en faveur de l'innovation sociale et de l'économie sociale. Et j'en ai gardé un excellent souvenir.
Et on a 3 beaux exemples de sociétés coopératives d'intérêt collectif ici dans le Diwa. La Carline, Diwat et l'ancien monastère de Sainte-Croix, et qui sont 3 structures. On voit bien tout l'intérêt aussi pour donner, qui était au départ plutôt associative. Et on voit bien que là, ça leur permet aussi d'atteindre des niveaux d'activité qui sont bien plus importants et de mettre autour d'une table toutes les parties prenantes qu'on essaye de faire à l'échelle du territoire Biovallée, mais là, à l'échelle d'une entreprise, de mettre toutes les parties prenantes, les salariés, les producteurs, les consommateurs, les collectivités locales. Et on voit bien que c'est aussi de ce croisement de points de vue qu'on arrive à avoir des entreprises qui sont innovantes et qui durent dans le temps parce qu'on prend un maximum d'aspects en compte et on va essayer de trouver ce qui correspond à l'intérêt d'un maximum de personnes et pas seulement à l'intérêt de quelques-uns ou d'une seule partie prenante. Et ça, voilà, cet exemple des sociétés coopératives d'intérêt collectif, elle montre bien tout l'intérêt qu'il y a à mettre autour d'une table au départ des gens qui n'ont pas forcément grand-chose à voir entre eux, c'est-à-dire que le maraîcher qui est dans son champ, les parents d'une famille qui viennent faire leurs courses ou les salariés qui travaillent dans l'épicerie, ils n'ont pas forcément les mêmes enjeux, les mêmes intérêts, mais quand on les met ensemble, et ben finalement, ils arrivent à trouver des solutions qui prennent en compte les intérêts et les enjeux de chacun et que ça soit durable dans le temps. Et c'est ça qui est intéressant et ce qui a été démontré à l'échelle d'entreprise. Nous, on essaie de le démontrer à l'échelle de notre territoire Biovallée et que ça doit faire modèle pour davantage d'entreprises parce que il ne s'agit pas pour les entreprises, et ce sera, je pense, aussi largement évoqué ce soir, mais uniquement d'afficher une forme de sobriété en consommation d'énergie sans revoir tout un tas d'aspects qui vont notamment sur le rapport au travail, sur le rapport à leurs salariés, sur le rapport à la répartition des richesses. Si tout ça n'est pas re-questionné, on va avoir effectivement quelque chose qui va faire beau dans l'affichage parce qu'on va peut-être réduire ses consommations énergétiques, mais on ne va pas continuer à transformer le monde comme il faut le transformer face aux enjeux auxquels on est confronté.
Oui, un petit mot supplémentaire. En fait, dans l'économie qui est l'économie la plus répandue aujourd'hui, les entreprises, en fait, c'est les gens qui détiennent le capital qui en même temps détiennent le pouvoir. Et finalement, la logique, donc c'est pas une question de savoir si c'est bien ou mal, c'est pas ça le sujet, mais la logique, c'est le capital. Je vais prendre un exemple que je vais citer, c'est l'exemple de Danone. Danone, c'est une très belle entreprise, mais c'est une entreprise dans laquelle récemment les actionnaires ont décidé de changer le président parce qu'ils estimaient qu'il n'y avait pas assez de profit et qu'on ne distribuait pas assez de dividendes. Moi, je m'oppose à cette vision de l'entreprise et je pense que ça a été le cas pendant un siècle et demi. Il faut passer à autre chose dans lequel les salariés, les clients, les consommateurs et puis l'ensemble de la société puissent donner son avis. Peut-être que pour Danone, il n'y a pas uniquement la question de savoir si on va distribuer 12% de résultats aux actionnaires, mais il y a la question de savoir qu'est-ce qu'on fabrique, quel impact carbone ça a. Et ça nécessite de changer la vision de l'entreprise. Et nous, Économie sociale et solidaire, depuis longtemps, on défend une autre vision de l'entreprise dans laquelle il n'y a pas que les actionnaires qui aient voix au chapitre, mais il y a d'autres parties prenantes de l'entreprise. Et il nous semble que c'est maintenant, dans le monde dans lequel on est, ces choses qu'on défend depuis longtemps, finalement, elles sont beaucoup plus d'actualité. Et d'où l'intérêt qui est porté à l'économie sociale et solidaire, qui est bien supérieur à celui que j'ai connu, moi, quand j'étais délégué interministériel. La société s'intéresse beaucoup plus à ce type d'entreprise, parce qu'on se rend compte que les limites que rencontrent les formes classiques d'entreprise aujourd'hui dans le monde dans lequel on est. La difficulté, c'est qu'on est maintenant dans une économie qui est mondialisée. Et donc, c'est très difficile de dire « je change uniquement ici », d'où un enjeu, je ne sais pas si on en parlera ce soir, mais en tout cas, moi, j'en parle chaque fois que je prends la parole, c'est d'avoir une vision européenne de ces sujets-là qui permettent de pas renvoyer simplement à la France ou parce que les entreprises elles sont en concurrence et donc il faut trouver des solutions qui soient des solutions à une échelle aussi internationale. Et pour moi, l'international, aujourd'hui, c'est l'Europe.
Voilà, c'est aussi au niveau international, ce mouvement de l'économie solidaire et sociale. J'imagine qu'elle a pris pied sur d'autres pays, notamment en Europe. Est-ce qu'il y a une osmose, une constance au niveau européen de cette politique ? Est-ce qu'il y a des pays plus avancés que d'autres ou pas ?
Alors, d'abord, première chose à dire, c'est que la Commission européenne, c'est-à-dire les institutions de l'Europe, sont beaucoup plus aujourd'hui motivées par l'économie sociale et solidaire qu'avant. Donc on a eu, il y a un peu plus d'un an, un plan d'action européen en faveur de l'économie sociale et solidaire qui a été préparé par le commissaire Nicolas Schmit, qui est en charge, qui est commissaire à l'emploi, au dialogue social et à l'économie sociale. Donc il a préparé un plan d'action européen, c'est une étape importante. Le commissaire français Thierry Breton, qui est commissaire au marché intérieur, a aussi pris des initiatives. Il a défini 14 écosystèmes industriels et économiques. Il y en a un qui porte sur l'économie sociale et économie de proximité. Vous voyez, les deux vont ensemble, l'économie sociale et de proximité. Donc déjà, les institutions européennes se préoccupent beaucoup plus que par le passé de l'innovation sociale et de l'économie sociale. Deuxièmement, la France est quand même plutôt dans le peloton qui a déjà une expérience ancienne. On a en particulier, on ne l'a pas encore dit, une loi qui date de 2014, qui est une loi cadre, qui est une loi qui définit toute une série de règles sur le fonctionnement de l'économie sociale et solidaire en France. Il y a pas mal de pays d'Europe qui nous regardent en disant ce qui se passe en France est intéressant, mais cette idée se développe un peu partout en Europe, avec des approches différentes. L'Europe du Sud, c'est-à-dire l'Italie, l'Espagne, le Portugal, ont des traditions, par exemple, dans le monde coopératif qui sont assez fortes. L'Europe de l'Est n'a pas les mêmes traditions et sera en avance peut-être sur d'autres approches que nous pouvons avoir, nous, en France ou dans l'Europe du Sud aujourd'hui. Donc l'enjeu européen, c'est d'arriver à ce que tout ça progresse et que ça s'intègre davantage dans un modèle européen, parce que finalement, le modèle chinois de développement ou le modèle américain, en tout cas, il me semble que l'Europe a une sensibilité historique différente. Et donc, il faut qu'on arrive à en faire quelque chose qui soit un projet européen, un projet donc d'un modèle qui soit plus respectueux de la planète et des personnes. Et c'est ça le sujet. Mais ce n'est pas gagné. Voilà, c'est un combat. Simplement, ce qu'on peut constater, c'est que sur un certain nombre d'années, cette économie sociale et solidaire a beaucoup progressé et intéresse beaucoup plus les gens aujourd'hui que ça n'était le cas il y a 20 ans, dans lequel on était sur un modèle beaucoup plus classique, libéral de développement. Les gens se rendent compte que ce modèle-là, aujourd'hui, marque sa limite et qu'il faut essayer d'inventer d'autres choses.
Une question, c'est concernant les gouvernements en France. Est-ce que vous avez vu justement une évolution de leur politique justement à l'adresse de cette économie sociale et solidaire ?
Moi, je constate une première chose, c'est que si vous voulez, aujourd'hui, on a une secrétaire d'État qui est en charge de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Dans le précédent gouvernement, on avait aussi une secrétaire d'État qui était basée à Bercy. Dans le gouvernement précédent, on a eu un ministre qui était à Bercy en charge de l'économie sociale et solidaire. Donc, je pense que les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou comme aujourd'hui, finalement, l'économie sociale et solidaire, maintenant, est inscrite dans le paysage. Ce n'était pas forcément le cas avant. Là, quand il y a un nouveau gouvernement, on a encore un ministre qui est en charge de ça. Donc, ça veut dire que c'est reconnu. Après, il y a sûrement des nuances, évidemment, qui sont des nuances politiques entre les familles politiques et la vision qui se font de l'économie. Et qui font qu'il y a des différences dans les approches des sujets. Tout à l'heure, Karine a parlé des entreprises à mission. Les entreprises à mission, c'est une forme d'avancée des entreprises classiques. Ce n'est pas la même chose que les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Une entreprise à mission, c'est une entreprise classique qui continue à être la propriété de ses actionnaires. Simplement, elle se donne des missions supplémentaires. Ça, c'est une forme qui a intéressé le gouvernement sous Emmanuel Macron. Dans la vision précédente de la loi de 2014, on était plus sur de l'économie à forme coopérative, de l'économie, qui s'attaque aux questions de la propriété des entreprises. Donc, il y a des nuances, mais ce qu'on constate, c'est quand même une certaine pérennité aujourd'hui et auquel il faut ajouter le fait que les collectivités locales, donc les mairies, les départements, les régions, ont des politiques en faveur de l'économie sociale et solidaire. Moi, j'ai connu il y a 30 ans, il n'y avait pas forcément ça. Aujourd'hui, dans la plupart des régions, il y a un adjoint du président qui est en charge de l'économie sociale et solidaire. Dans beaucoup des grandes villes françaises aussi, il y a un élu, moi je le connais à Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, à Toulouse, à Strasbourg, il y a un adjoint qui porte l'économie sociale et solidaire, donc qui a des budgets, qui conduit des projets, etc. Donc ça, c'est très important parce que ça permet d'ancrer l'économie sociale et solidaire sur le territoire. Donc là, il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits. Aujourd'hui, par exemple, dans ce qu'on appelle les schémas régionaux de développement économique, il y a toujours un volet économie sociale et solidaire à l'intérieur du schéma d'ensemble de l'économie régionale. Ça, ça n'existait pas du tout il y a 25 ans. Vous voyez, c'est quelque chose qui montre que ça s'ancre progressivement. Moi, je trouve que ça ne va pas assez vite. D'abord parce que je vieillis et donc plus ça ira vite, plus je serai content de vous avoir ça avant de partir. Mais aussi parce que c'est les problèmes du monde qui s'accroissent. Et donc, si on ne change pas les choses, on va dans le mur. Donc, il faudrait quand même comprendre que c'est pas simplement pour se faire plaisir qu'on fait ça, c'est aussi parce que c'est une nécessité de changer nos modèles économiques. Nos modèles économiques aujourd'hui ont des effets négatifs qui sont trop importants. Donc il faut admettre d'y toucher et de les changer, même si c'est difficile. Et c'est le message que porte l'économie sociale et solidaire.
En quelque sorte, est-ce qu'il existe aussi un audit au niveau du citoyen, à savoir sa perception de toutes ces structures qui se sont créées, et qui sont d'économie solidaire et sociale. Est-ce qu'il a une perception du public, de ces collectivités ou de ces organisations ?
Alors, ça a beaucoup progressé, parce qu'il y a une quinzaine d'années, je pense que quand on disait économie sociale et solidaire, les gens ne savaient pas ce que c'était. Aujourd'hui, les enquêtes d'opinion, comme on appelle, montrent que les gens connaissent le terme, mais que, parce que ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, si on regarde la loi de 2014, ça rassemble les coopératives, les mutuelles, les associations et les fondations, plus les entreprises sociales qui respectent un certain nombre de règles. Donc c'est assez hétérogène. Il y a dedans des toutes petites entreprises, il y a des très grandes entreprises coopératives ou mutualistes, il y a des banques par exemple, il y a des grandes banques, il y a des grandes mutuelles d'assurance, des grandes mutuelles de santé qui font partie de cette économie sociale. Donc c'est un peu quelquefois difficile à percevoir pour la femme ou l'homme de la rue de se dire c'est quoi l'économie sociale. Ils en ont une perception relativement un peu globale, quoi. C'est-à-dire que c'est des entreprises différentes sans pouvoir forcément bien donner des exemples, dire bah, je peux vous citer telle, dans ma région, telle entreprise qui est une entreprise de l'économie solidaire. C'est là où on a des progrès à faire, c'est-à-dire de montrer que, en fait, dans la vie d'une personne de tous les jours, vous êtes en contact presque tous les jours avec l'économie sociale et solidaire. Si vous êtes assuré à la Massif ou à la Maïf, ben vous êtes dans l'économie sociale et solidaire. Si vous avez une banque qui s'appelle le Crédit Mutuel ou le Crédit Coopératif, vous êtes avec l'économie sociale et solidaire. Si vos enfants vont faire du sport le soir dans une association 1901 qui est un club sportif, vous êtes dans l'économie sociale et solidaire. Donc il y a beaucoup de choses de la vie quotidienne, en fait, qui sont réalisées par ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Mais ça ne fait peut-être pas encore assez un projet d'ensemble que les citoyens, les consommateurs puissent identifier en tant que tels. Donc là, il faut qu'on progresse. On n'y est pas encore tout à fait assez. Et puisqu'on va parler de sobriété ce soir, il y a une enquête qui a été faite par le pacte civique et qui montre qu'en fait, les gens, contrairement peut-être que les gouvernants pensent, sont assez prêts à se dire il faut qu'on soit plus sobre. Je pense que l'opinion publique, les citoyens progressent quelquefois plus vite que ne progressent les dirigeants sur la nécessité de transformer un certain nombre de choses, y compris d'être plus sobre dans un certain nombre de domaines. Voilà. Donc là, c'est à nous, Économie sociale et solidaire, de nous faire mieux comprendre, mieux connaître, d'attirer les gens vers nous et de leur faire comprendre. Mais c'est quand même déjà assez largement le cas et les gens, on voit bien, ils changent leur comportement. Les circuits courts, par exemple, qui est une chose qu'on peut citer, la façon de... Les biocoop, par exemple, vous voyez, les biocoop, c'est quand même des structures de l'économie sociale qui, en quelques années, ont connu un développement considérable parce que les gens ont changé leur façon de consommer et que ça les a intéressés d'aller dans un biocoop parce que c'est du bio et puis parce que c'est coopératif.
On va bientôt finir. Karine, le sujet de ce débat, sobriété et entreprise, un projet qui a du sens, a été voulu par qui ?
Alors, c'est un sujet qui a été proposé par Jean-Louis Vira, qui est une des personnalités locales très actives à Écologie au quotidien, mais aussi au laboratoire de la transition. Et je pense que la plupart des auditeurs de Radio Diwa l'ont déjà croisé ici ou là, mais qui vient du monde de l'entreprise. Il était expert comptable. En prenant en considération les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux qui vont avec, s'est investi sur sa deuxième partie de vie en arrivant à la retraite pour faire avancer un certain nombre de questionnements autour du lien entre entreprise et évolution de la société. Et donc c'est lui qui a notamment amené ce sujet là dans le cadre des rencontres de l'écologie. Et je trouve ça vraiment intéressant de l'amener parce qu'on a souvent tendance à ramener les questions de transformation écologique aux gestes de chacun et à faire porter une responsabilité individuelle ou de l'autre côté d'attendre des lois qu'elles fassent bouger les choses. Mais on sait, que les gestes individuels quotidiens ne suffiront pas à changer le monde. On sait que les lois, elles mettent longtemps à changer et qu'il faudra encore attendre, et tant mieux quand même si ça progresse, mais pour que les lois nationales européenne, internationale évolue et qu'entre deux, il y a quand même cet acteur qu'est l'entreprise qui génère beaucoup de flux, de matières qui concerne beaucoup de personnes parce que ce soit les salariés, les clients, etc. Ça brasse du monde une entreprise et que c'est un endroit où il est intéressant d'agir aussi sans attendre que ça vienne des lois et donc de regarder un petit peu comment se comporte tout ce monde des entreprises et qu'est-ce qui évolue. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir traiter de ça en cadre des rencontres de l'écologie.
Dernière question à Hugues Sibylle. Vous parliez de loi, Karine. De par votre expérience, combien d'années prend justement l'instauration d'une loi de sa perception dans le quotidien?
Alors c'est très variable selon les lois. Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi, c'est un acte législatif qui est soit organisé par l'Assemblée nationale et le Sénat, soit par le gouvernement qui... Il y a des projets de loi, des propositions de loi, donc ça peut venir du gouvernement ou de l'Assemblée elle-même. Alors en France, on est les spécialistes de ça. Quelquefois, on fait une loi, mais on ne prend pas les décrets qui vont permettre d'appliquer. On appelle ça des décrets d'application. Il y a la loi qui donne le cadre, mais pour qu'elle s'applique, il faut des décrets qui disent concrètement, ça va marcher comme ça. Alors, quelquefois, on a la loi, mais on n'a pas le décret. Donc, il faut préparer la loi, il faut voter la loi. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui est intéressant, c'est que toute loi doit avoir ce qu'on appelle une mesure d'impact préalable. Donc, ça veut dire... Voilà ce qu'on veut faire et ce qu'on peut dire, ce que ça va, on pense que ça va produire comme effet. Donc, vous voyez, c'est intéressant déjà comme démarche. Et après, il y a l'application de la loi. Au bout de combien de temps ça fait de l'effet? Moi, je vais vous prendre juste un exemple, puisque j'en ai parlé tout à l'heure. Comme ça, pour vos auditeurs, ça restera cohérent. La loi sur les coopératives d'intérêt collectif dont j'ai parlé, en fait, elle a eu ses 20 ans cette année. Et pendant les presque 10 premières années, elle a eu un effet limité. Et depuis depuis une dizaine d'années, ça se développe. Donc en fait, les lois, elles peuvent avoir une durée pour les préparer et puis pour produire des effets. Parce que faire une loi, si c'est pour voter une loi qu'elle ne produise pas d'effets, ça ne sert à rien. Ça encombre. La France, quelquefois, on la critique à cause de ça. C'est-à-dire que c'est trop complexe, il y a des lois partout, on n'y comprend plus rien, les décrets, etc. Bon, donc il faut manier ça avec prudence. Mais ça peut mettre un certain temps avant de produire des effets d'une loi. Mais il faut l'admettre. C'est pas pour ça que la loi est mauvaise. Il faut laisser un certain temps pour que les mesures qui sont prises par les gouvernements, et il faut éviter d'en changer tout le temps. C'est pour ça qu'il y a eu des débats régulièrement sur le fait d'avoir ce qu'on appelle constitutionnalisé des lois. C'est-à-dire pour que si c'est inscrit dans la Constitution, qu'on arrête d'y retoucher pendant un moment, quoi. Là, je pense qu'il y a quand même des dispositions à prendre compte tenu de la crise écologique et la nôtre, qui passent par des mesures législatives, mais les effets de ces lois, elles peuvent prendre 5 ans, 10 ans avant qu'on se dise « Ah ben ça a été bénéfique ».
Une dernière chose, Karine Melzer, on peut s'informer sur BioVallée par internet également, avec son site.
Oui, tout à fait, il y a un site biovallée.org. Si je ne me trompe pas. On essaye de plus en plus, pas encore suffisamment, mais d'être présent sur des manifestations, des choses qui se passent d'un bout à l'autre du territoire de la vallée de la Drôme. Et bien sûr, tout le monde est le bienvenu pour venir se poser des questions sur ce qui se passe sur ce territoire et voir quelle pierre il peut apporter à l'édifice. On n'est jamais assez nombreux.
Hugues Sibylle, vous-même avez un site où vous exposez, vous
sur
idées,
le site
vous,
du labo de l'ESS, où vous pouvez trouver des rapports, des notes, des éditos, des podcasts, sur tout ce qui concerne l'économie sociale et solidaire, et donc labo, L-A-B-O de l'ESS. On peut aussi écrire et on peut participer à certaines de nos activités, des colloques, des rencontres sur ce sujet de l'économie sociale et solidaire.
Karine Melzer et Hugues Sibylle, je vous remercie tous deux d'être venus sur RDWA pour nous parler donc de l'économie sociale et solidaire. Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Au revoir.